Radio Prague, les informations.
Le verglas et la neige compliquent la circulation en Tchéquie. La social-démocratie tchèque propose un ensemble de mesures contre la crise. Selon Jiří Paroubek, la Tchéquie pourrait adopter l'euro au plus tard en 2016. La neige et le verglas ont sérieusement compliqué le trafic sur la route tchèque. L'autoroute 2-5 a été bloquée par une collision de camions qui s'est produite vendredi en Allemagne devant le poste frontière de Rozvadov. Une collision de 6 voitures a été signalée également près de la commune de Hejmanová Huť. La route entre les villes de Mladá Boleslav et Liberec a été bloquée elle aussi pendant plusieurs heures à cause des accidents successifs de 11 voitures ayant glissé sur la chaussée verglacée. À cause de la neige, 4 lignes de chemin de fer en Bohême centrale ont été mises hors service et les passagers ont été transportés par des autobus. Le chef du Parti social-démocrate tchèque, Jiří Paroubek, rencontrera la semaine prochaine le Premier ministre Jan Fischer et lui remettra le document intitulé « Chemin pour sortir de la crise ». Parmi les mesures proposées, il y a stratégie d'adoption de l'euro, un soutien aux investissements, une nouvelle politique de l'emploi et la lutte contre la criminalité et la corruption. D'après le président du Parti social-démocrate, Jiří Paroubek, au cas où les sociodémocrates remportent les prochaines élections législatives, la République tchèque pourrait adopter l'euro plus tard en 2016. Jiří Paroubek promet que son parti cherchera les possibilités pour faire des économies et pour parvenir à la croissance économique. Le service de secours en montagne lance un avertissement contre le danger des avalanches dans le massif de Jeseniky en Moravie du Nord. Pour l'instant, il s'agit du danger du troisième degré sur une échelle de 5 degrés. Le même avertissement a été lancé aussi dans le massif de Krkonoše en Bohême du Nord. L'Office anticorruption britannique, SFO, a accusé de corruption l'homme d'affaires autrichien Alphonse Mensdorf Pouilly. Ce dernier est l'ancien agent du consortium d'armement britannique, BAE. On lui reproche les opérations douteuses liées avec les livraisons des chasseurs JAS-39 Gripen pour la République tchèque, la Hongrie et l'Autriche. Selon le ministre tchèque de la Culture Václav Riedlbauch, le directeur de la Galerie nationale Milan Knijak pourrait être remplacé par un étranger. Le ministre ne pense pas que le successeur du directeur actuel de la Galerie nationale devrait être forcément un tchèque. La date du départ de Milan Knijak n'est pas cependant encore fixée. Météo. Ce samedi, fête de tous les robins selon le calendrier tchèque. Le temps en Tchéquie est nuageux à couvert avec quelques chutes de neige. Les températures diurnes se situent entre moins 3 à 1 degré au-dessus de zéro. Dimanche, le temps en République tchèque sera nuageux à variable et les chutes de neige se feront plus rares. Les températures diurnes varieront de moins 5 à moins 2 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été proposées par Václav Richter.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Dans la biographie de la poétesse russe Marina Tsvetaeva, cette incessante suite d'espoir et de déception, il y a un chapitre qui était sans doute bien difficile pour elle, mais qui n'en reste pas moins marqué par la grâce, la douceur et la beauté. Entre août 1922 et octobre 1925, Marina Tsvetaeva a vécu à Prague. C'est à Prague, capitale de la toute jeune République tchécoslovaque, que Marina a fait la connaissance d'Anna Teskova, qui devait devenir sa grande amie. 135 lettres que Marina a adressées à son amie pragoise ont été réunies dans un livre, traduites du russe en français et publiées en France aux éditions Clémence Hiver. Voici la reprise d'une émission que nous avons consacrée à ce livre en 2008.
Thank you.
Pour moi, les mots sont trop petits et la démesure de mes mots n'est que le pâle reflet de la démesure de mes sentiments, a dit Marina Tsvetaeva pour caractériser sa nature passionnée. Née à Moscou en 1892 dans la famille d'Ivan Tsvetaev, historien d'art et fondateur du musée des Beaux-Arts de Moscou, Marina s'imprègne dès le début de l'art et de la beauté. Sa mère Maria, issue de la noblesse polonaise, est une musicienne passionnée. Marina se souviendra de deux leitmotifs de son enfance, musique et musée. Adolescente, elle voyage beaucoup, étudie dans plusieurs pays européens et choque son père par ses excentricités. Bientôt, elle commence à écrire et la poésie devient l'essence même de sa vie. En 1911, elle rencontre Sergueï Efron, étudiant de 17 ans, et c'est le coup de foudre. Marina décide de ne jamais se séparer de lui et de l'épouser malgré l'opposition familiale. C'est le début d'une existence nomade, pleine de difficultés et de misère. La Première Guerre mondiale et la Révolution d'Octobre ébranlent la vie de Marina, devenue entre-temps mère de deux filles. Son mari Sergueï, qui combat dans l'armée blanche, est obligé de s'expatrier. Marina le rejoint, après d'innombrables péripéties, en 1922 avec sa fille Ariadna, l'autre fille Irina ayant été victime de la malnutrition. Entre 1922 et 1925, la famille vit à Prague et reçoit des subsides du gouvernement tchèque. C'est à Prague que naît le troisième enfant de Marina, le fils Georgi. La vie que la famille mène en Tchécoslovaquie est extrêmement modeste, mais ne manque pas d'une certaine beauté. Marina, poursuit son œuvre poétique, noue une forte amitié avec Anna Teskova, une grande russophile et traductrice de littérature russe. C'est à elle qu'elle se confiera dans ses lettres pendant 15 ans. Entre 1925 et 1939, Marina Tsvetaeva vit en France. Ce grand chapitre de sa vie lui apporte des espoirs, de nouvelles passions et aussi beaucoup de déceptions. Elle poursuit son œuvre, mais n'arrive pas à s'imposer vraiment dans le monde littéraire. Malgré sa nature passionnée, elle tiendra sa promesse du début, n'abandonnera pas son mari, elle le suivra même lorsqu'il rentrera en 1939 en Union soviétique. Mais les sources de l'énergie vitale de Marina sont épuisées, elle n'est plus capable de supporter de nouveaux coups du sort. Lorsque Sergueï et sa fille Ariadna sont arrêtés, et lorsqu'elle est évacuée en Tartarie après l'invasion allemande de 1941, elle met fin à ses jours. En 1925, Marina écrit à son amie Anna Teskova.
J'aimerais beaucoup flâner avec vous dans Prague, parce qu'au fond, Prague aussi est de ces villes où seule l'âme compte. Prague est la ville que j'aime le plus après Moscou, et pas à cause de la parenté slave, mais de ma propre parenté avec elle. Son caractère mélangé et sa multiplicité d'âmes. Je pense que de Paris, j'écrirai sur Prague, non par reconnaissance, mais par goût. De loin, je vois mieux tout.
Et Marina demande à son amie de l'aider en lui fournissant des données réelles, afin que tout cela ne sombre dans l'oubli. Elle évoque aussi un autre souvenir de Prague auquel elle attribue une importance symbolique.
J'aimerais beaucoup connaître l'origine, l'époque approximative et la symbolique de ce chevalier pragois sur, ou plutôt sous le pont Charles, ce garçon en sentinelle sur le fleuve. Il est pour moi le symbole de la fidélité à soi-même, pas aux autres. Et j'aimerais tellement en avoir une image, ou en trouver, il n'y en a nulle part, une gravure en souvenir. Racontez-moi tout ce que vous savez sur lui. Ce n'est pas une femme, on peut lui demander son âge. Ah, quel merveilleux récit on pourrait écrire, avec Prague pour décor, sans intrigue et sans corps, un roman des âmes.
La statue du pont Charles qui intriguait Marina se trouve sur un des piliers du pont du côté du quartier de Malastrana. Érigée vers la fin du XVe siècle, elle a été détruite par les canons en 1638 au cours de la guerre de 30 ans, puis érigée de nouveau en 1884 par Ludwig Schimek. La statue représente un chevalier en armure avec un glaive et un bouclier. Sa silhouette élancée se dresse comme dans un profond recueillement au-dessus de la rivière. On le surnomme parfois le Roland de Prague, mais la légende veut que ce soit le chevalier Brunswick. D'après une vieille légende tchèque, Brunswick a sauvé la vie à un lion, et l'animal reconnaissant est devenu son allié. C'est, paraît-il, le même lion qui est représenté sur les armoiries de la Bohême. Marina évoque le chevalier du pont Charles à maintes reprises dans ses lettres. Fascinée par cette statue, elle compose en 1923 le poème « Le chevalier de Prague » inclus dans son livre « Après la Russie ». Dans les moments de solitude, de doute et de désespoir, le chapitre tchèque restera pour Marina une période claire et bénie de sa vie. Elle ne cesse de suivre de loin la Tchécoslovaquie. Dans ses lettres, elle se souvient toujours de nouveaux détails de Prague. Elle suit avec angoisse et indignation le démantèlement de l'État tchécoslovaque après le traité de Munich en 1938. Et tout cela se reflète aussi dans sa poésie de ce temps-là, pleine de colère et d'accusations.
Vaste plaie. Quel répit, enterré vif, le Tchèque. Les peuples ont en leur sein une plaie. Un des nôtres est tombé.
Dans les années sombres précédant la Deuxième Guerre mondiale, Marina idéalise les années passées à Prague. Il lui semble que la Tchécoslovaquie est sa véritable patrie. Elle en parle souvent dans ses lettres à Anna Teskova, comme dans celle qu'elle lui adresse de Paris en 1938.
Tout me ramène à la Tchécoslovaquie. Je n'ai jamais, au grand jamais, pas une fois regretté de n'avoir pas 20 ans. Eh bien, pour la première fois, du haut de tous mes non-20 ans, je dis « J'aimerais être tchèque et avoir 20 ans, pour plus longtemps me battre. Votre pays rassemble tout ce qu'il me faut rassembler et aimer séparément. »
Je vous ai parlé du chapitre pragois dans la vie de Marina Tsvetaeva. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Magda Hrozinková qui a prêté sa voix à Marina. Merci à Irena Viernochová, réalisation technique, et à Petr Pokorný, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Pour cette fois, nous allons nous intéresser à un mot un peu particulier et curieux de la langue tchèque, un mot qui tire partiellement son origine du français mais qui pourtant possède une autre signification que l'on ne retrouve pas en français. Il s'agit donc du mot
brigada.
Brigade. En français, le mot brigade possède deux sens principaux. Il peut désigner une unité militaire ou une unité, un petit détachement de police ou de gendarmerie. En tchèque également, le mot
brigada
représente une unité militaire. Moins importante qu'une division, une
brigada
regroupe plusieurs régiments ou bataillons dont le nombre varie selon les États ou les pays. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'autre sens qui se cache en tchèque derrière ce mot
brigada.
C'est donc de brigade de travail dont il sera question. Une notion guère rassurante de prime abord, admettons-le, mais finalement pas si terrible que ça, comme nous allons le découvrir. L'extrait musical que vous venez d'entendre est tiré d'une comédie musicale tchèque produite en 1964 et intitulée
Starci na chmelu,
soit quelque chose comme Les vieux dans la houblonnière, mais un titre que l'on pourrait aussi traduire comme Les cueilleurs de houblon. Si nous évoquons ce qui est sans doute la plus célèbre des comédies musicales tchèques, c'est parce que le film, tourné avec beaucoup de légèreté et d'humour, et qui en dit long sur les mœurs de l'époque en Tchécoslovaquie, raconte l'histoire d'un groupe de jeunes étudiants qui effectuent un travail saisonnier dans une houblonnière de Bohême. Or, sous le communisme, ce travail saisonnier était appelé
Chmelové brigády,
soit littéralement les brigades de houblon, plus précisément les brigades de cueilleurs de houblon. En fait, dans la seconde moitié du mois d'août et début septembre, un certain nombre de jeunes tchèques, encore étudiants, commençaient la nouvelle année scolaire par ce travail saisonnier appelé
brigada.
Une brigade était donc un travail manuel, les jeunes gens effectuant des tâches n'exigeant pas de spécialisation ou de qualification. Ces brigades étaient alors appelées
dobrovolné brigády,
soit brigades volontaires. Elles étaient certes qualifiées de volontaires par le régime, mais avaient bel et bien un caractère obligatoire puisque les jeunes étaient désignés pour s'y rendre. Il s'agissait alors en effet pour les autorités de montrer que tout le monde, sans distinction au sein de la population tchécoslovaque, concourait sans être payé à l'édification du socialisme. Ces brigades volontaires, ou bénévoles, ne concernaient pas seulement la cueillette du houblon. Il pouvait tout aussi bien s'agir de la récolte des pommes de terre, des moissons, d'un plantage d'arbres ou encore de la construction de certains bâtiments publics, comme par exemple une école, un terrain de jeu pour les enfants ou un arrêt de bus. Peu importe, mais il s'agissait en tous les cas essentiellement de travaux manuels. Notons encore que les étudiants n'étaient pas les seuls à participer à ce type de
brigada,
puisque volontaires étaient aussi les jeunes hommes lors de leur service militaire, voire parfois la population au sens large du terme, notamment lors des opérations de nettoyage des cités d'habitation. Pour ce dernier type de brigade, on parlait à l'époque de
Akce Z,
soit Action Z. Il ne s'agissait pas d'une opération d'espionnage, mais d'une opération dite d'embellissement, la lettre Z désignant en effet le mot
Zvelebování,
soit embellissement. Il s'agissait donc, grâce à un travail collectif, à une action collective, d'embellir, de rendre plus agréable les environs des habitations ou la commune en général. Une
brigada
qui, là aussi, était effectuée gratuitement pour le bien de la communauté.
Je to dávno, jak ten život utíká. Jeho dcera měla odznak fučíka a s ní socialistický práce, celá brigáda.
Nous l'avons compris, pendant longtemps, pour les Tchèques, le mot
brigada
a donc désigné un travail manuel, temporaire et volontaire, entre guillemets. Aujourd'hui, cette notion de brigade volontaire a bien entendu disparu, plus personne ne souhaitant travailler gratuitement sur ordre venu d'en haut. Il n'en demeure pas moins que le mot
brigada
continue de désigner une forme de travail et de concerner les jeunes tchèques en priorité. Mais il s'agit désormais plutôt de ce que l'on appelle en français un petit boulot, à savoir un travail le plus souvent temporaire, de courte durée et sans qualification. Ces brigades concernent essentiellement les étudiants qui ont là un moyen de gagner un peu d'argent, de se faire un gain d'un point pour financer leurs études, leur logement ou aussi leurs activités à côté, leurs sorties et toutes les bières qu'il faut profiter de boire lorsque l'on est étudiant. Et si vous vous demandez pourquoi le mot
brigada
englobe cette notion de travail à la différence du français, sachez que c'est parce que le mot tchèque, dans ce sens précis, ne tire pas son origine du français, mais du russe. Dans la langue russe, il existe en effet non seulement des brigades militaires, mais aussi des brigades qui désignent des groupes de travailleurs. Citons d'ailleurs la définition officielle qu'en donnaient les autorités soviétiques, groupe d'ouvriers unis pour accomplir une tâche commune de la manière la plus efficace, sur les bases de l'entraide amicale, de l'inintéressement mutuel et de la responsabilité pour le résultat de leur travail. Fin de citation. On le voit, une conception assez proche sur le fond de celle qu'en avaient les Tchécoslovaques sous le communisme. Et c'est sur cette constatation que se referme ce tchèque du bout de la langue. On se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous du mieux possible. Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím, ahoj.
Courrier des auditeurs.
Je suis heureux de savoir que Radio Prague continue, car c'est la meilleure radio que j'écoute souvent.
C'est ce que nous a écrit Rémi Le Toulec de Meaux en France. Merci pour ce petit mot qui donne le coup d'envoi du courrier de cette semaine. Effectivement, pour ceux qui ne sont pas au courant, Radio Prague continue à diffuser ses émissions en ondes courtes, même avec un budget restreint. Une information importante, notre nouvelle grille de programmes valables du 1er février au 27 mars vient d'être publiée et envoyée à nos auditeurs. Comme nous l'avions déjà signalé dans ce magazine, du fait qu'un seul émetteur, celui de Litomyšl, ait été conservé, Le nombre de diffusions a été réduit de moitié. Nous vous prévenons également que certaines diffusions indiquées dans cette nouvelle grille n'auront pas lieu le 17 février et le 17 mars prochain, suite à l'entretien de l'émetteur. Merci pour votre compréhension et surtout pour votre soutien inlassable exprimé dans vos courriers, pour votre engagement, votre intérêt et votre gentillesse. Ceci n'est pas une évidence et nous vous en remercions très sincèrement. Citons à ce propos Marcel Lecaire de Malzéville en France, il nous écrit.
Je vous remercie surtout pour la continuité de vos émissions après le 31 décembre 2009, car si l'Europe centrale disparaît du paysage audiovisuel, la culture d'expression française sera largement perdante dans le monde.
Merci à Tony Legendre. Notre ancien fidèle auditeur, écrit-il, pour une belle carte postale de la ville natale de Jean de La Fontaine, Château-Thierry. Tony Legendre écrit.
Voici mes premiers rapports d'écoute de l'année. Comme je vous capte dans d'excellentes conditions via WRN sur le satellite Otbirt, j'ai donc choisi cette solution car la réception sur ondes courtes est souvent difficile en ce moment.
André Bio de Romeray, en Belgique, qui s'était récemment plaint d'un très mauvais signal de Radio Prague, témoigne cette fois-ci d'une très bonne audibilité, avec un léger fading à la fin du programme, diffusé le 13 janvier à 17h30 TU sur 5930 kHz. Nous saluons depuis Prague Osamuai Kava, notre auditeur de Tokyo, qui nous a envoyé un courriel très sympathique où il évoque la météo au Japon et en Europe et les Jeux Olympiques qui approchent ensuite. Osamuai Kava nous raconte.
Il y a 40 ans, j'ai écouté pour la première fois les émissions en anglais de Radio Prague. Ensuite, étant trop occupé par mes études et mon travail, je ne pouvais pas écouter les ondes courtes pendant 20 ans. Maintenant, je me suis mis à nouveau à l'écoute. Radio Prague, veuillez continuer la radiodiffusion. J'adore Radio Prague pour toujours.
Vous écoutez le courrier des auditeurs sur Radio Prague. Passons maintenant, chers amis, à vos questions. Marcel Lecerf voudrait savoir quelle est la fréquence des divorces en Tchéquie. Monsieur Lecerf, la République tchèque se range avec la Belgique, la Suède ou la Finlande parmi les pays au taux de divorce le plus élevé. Ici, un mariage sur deux se termine par le divorce, ce qui représente environ 30 000 ruptures conjugales par an. Cette tendance préoccupante est enregistrée depuis le début des années 80. Répondons maintenant avec un peu de retard à la question de Didier Bourpère relative au nombre de diabétiques en République tchèque. Notre auditeur de Romans-sur-Isère nous a écrit.
Je suis intéressée à cela car je suis diabétique depuis l'âge de 50 ans et c'est héréditaire. Toute ma famille l'a eu ou l'a encore et mes enfants devront se méfier.
Monsieur Beaurepaire, les statistiques sont alarmantes. Ces 20 dernières années, le nombre de diabétiques a doublé en Tchéquie. Actuellement, on enregistre quelques 800 000 personnes atteintes. Dans la plupart des cas, il s'agit du diabète de type 2, donc dû aux mauvaises habitudes alimentaires, à la sédentarité, au stress, et dont souffre par ailleurs le chef du premier parti de droite dans le pays et ancien premier ministre Mirek Topolánek. Le nombre de malades progresse rapidement. Plus de 50 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année et d'ici 4 ans, un Tchèque sur 10 pourrait être diabétique. De nombreuses campagnes de prévention et de dépistage sont en cours. C'était donc le courrier des auditeurs sur les ondes de Radio Prague. Avant de vous quitter, nous remercions Michael Junion, Philippe Marsan, Didier Morival et Claude Marnet pour leur rapport d'écoute. Saluons également notre auditrice Valérie Coroller qui souhaite depuis la Bretagne « Šťastný nový rok », donc bonne année à toute l'équipe de Radio Prague.
Alena Gebertova et Jarka Gisiblova qui vous ont présenté ce courrier souhaitent très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine.
Jak se máš? You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.